Il est entre 18h15 et 18h30 sur Jet FM. Il est à peu près l'heure d'écouter Retransmission.
Retransmission. L'émission qui permet de découvrir des projets sonores de créatrices et créateurs indépendants. Bonjour et bienvenue dans Retransmission. Aujourd'hui, nous continuons l'exploration de l'île inventée, nom du livre écrit par Christiane Vadney. Réalisé par Rhizome, Arkham-sur-Loire et en collaboration avec La Quadrature, la série de podcasts Cosmogonie de l'île inventée nous emmène découvrir l'île imaginaire aux mille facettes de l'autrice. Nous allons tout de suite écouter le 5e épisode, Arbor Mater. Bonne écoute.
J'espère que ce sera assez poétique et littéraire, là, cette fois-ci.
Ah, mais t'as bien vu,
on n'est pas là pour faire de la vulgarisation.
Non, absolument. On a des choses à dire, on va les dire.
Bonjour et re-bienvenue à ce 5e épisode.
Non,
on reparle, là. De cette série spéciale de rencontres d'auteurs. Donc, je suis Simon Dumas, éditeur chez Rhizome, et je discute avec mon invité, Christiane Vadney, et ses invités, Louis-Émile Grenier et Flavie Ruse, de son dernier livre, L'île inventée. Bonjour.
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 Votre texte, Christiane, questionne une tension qui nous habite tous et qui anime votre personnage, Anne-Cy Lou. Je parle de l'appel du départ, de l'ailleurs. Mais comme vos invités l'ont expliqué un peu plus tôt, plusieurs insulaires semblent peu enclins à quitter l'île et même, ils ne veulent pas que les autres quittent l'île. En tout cas, une frange importante de la population est dans cet état d'esprit. Mais moi, je m'intéresse à vous, Christiane. Est-ce que pour vous, c'est un combat, cette question à savoir si l'on doit partir ou rester?
Alors, si je peux me permettre,
Non. Bah, Christiane?
Est-ce que c'est un combat pour moi? Oui, c'est un aspect du texte d'Anne-Cy Lou que je rappelle, qui je rappelle n'est pas un personnage, mais l'auteur du texte. C'est un aspect de son texte qui m'interpelle beaucoup parce qu'aujourd'hui, l'appel de l'ailleurs, qu'on percevait comme très romantique il y a à peine quelques années, encore plus à l'époque du récit, ça me semble vraiment problématisé. Moi, j'adore voyager, ça fait partie de mes grandes inspirations, de mes grandes passions, mais je suis préoccupée, par exemple, par l'empreinte carbone des déplacements en avion ou le tourisme de masse. C'est des questions qui me semblent rendre cette romantisation de l'appel de l'ailleurs un peu plus complexe.
Puis c'est des questions aussi qui rendent manifeste votre amour de l'humanité, tandis que dans votre livre, les insulaires tourne le dos au reste du monde, puis on pourrait dire aussi à l'humanité. Êtes-vous, comme eux, critique à ce point de ce qui fait de nous une espèce?
Alors, si vous me permettez, Christiane, j'ai fini par avoir la conviction que les insulaires ont été profondément marqués par la différence de vision d'Alcide et de Charlotte. C'est mon avis.
Oui. Mais c'est parce que je m'intéresse plutôt à la vision du monde de Christiane.
Oui. Peu importe. Hein? Bon, écoutez, Simon. Non. Le fait est que Alcide se désintéressait de la chose humaine et que les plantes, qu'il considérait à raison comme le fondement de la vie sur Terre, sont devenues son unique obsession.
Mm-hmm.
Voilà. Tandis que Charlotte, au contraire, elle est restée jusqu'à la fin de sa vie une passionnée des rencontres et des échanges entre les peuples, entre individus. La société de l'île inventée a eu toutes les difficultés du monde à faire se rencontrer ces deux visions. Il faut le reconnaître, car une importante frange de la population, si vous voulez, ne pouvait d'ailleurs pas accepter que certains de ses membres puissent repartir, reprendre la mer. Quand, pourtant, il s'agit là du geste primordial que tout à chacun a fait en embarquant sur l'Hyperion.
D'ailleurs, les années passant, tous ceux qui se trouvent au-delà de l'île, devant Alienomest, excusez-moi. Le traumatisme du grand déracinement a probablement dû raffermir ce trait social.
Le grand déracinement, tiens. Christiane, je ne me souviens pas d'avoir lu ça dans le livre.
Non, mais c'est-à-dire qu'une dizaine d'années après la fondation de l'île, après que Alcide Lachance soit mort, des informations précieuses sur la vie végétale ont été perdues. Et pour ce qu'on en sait, la quasi-totalité de l'île est devenue toxique. Ces émanations ont donc forcé les insulaires à se déplacer sur un village flottant qu'on appelle le refuge des palétuviers. D'ailleurs, la bulle sonore qu'on a entendue au début de cet épisode, elle a été découverte à cet endroit.
Oui, Si Alcide Lachance se met déjà, sans le vouloir, hein, je crois, les graines d'une sédentarité exacerbée par le dégoût de l'anthropocentrisme des sociétés humaines, hein, le déracinement a scellé pour les insulaires l'attachement à leur terre nouvelle, si dangereuse soit-elle.
En plus, l'arrivée de Suzy Fleming avec ses récits de la Première Guerre mondiale a probablement colporté cette peur de l'ailleurs au sein des nouvelles générations. Inévitablement. Alors, les projets de reprise de contact avec l'ancien monde par ceux qu'on appelle les ondoyants, puis plus tard les buissonniers, ont forcément dû être retardés.
Oui, ben justement, revenons-y. On le sent bien, dans L'île inventée, Suzy Fleming, qu'on appelle aussi la Calanchée, n'est pas un personnage qui fait l'unanimité. Hein? Christiane, vous souhaitez d'ailleurs nous lire un extrait assez parlant à propos de ce personnage, non?
Non, Simon, en fait, j'aimerais vous faire entendre une bulle sonore d'Alcidie Carpentière,
ben oui,
qui est une fervente défenseuse de la fermeture de l'île sur le monde. Martin?
Quoi? C'est moi qui interpelle Martin.
Martin?
Non, mais...
Chaque lunaison, depuis que cette île a été fondée, nous nous trouvons ici, aux algothermes, pour canaliser notre énergie dans les algues qui frémissent devant nous. Cela est utile. Cela est bon. Cette collaboration avec les plantes a permis à notre société de prospérer, d'inventer, de fleurir depuis plus d'un demi-siècle. Or, à l'heure où un avion pousse sur le sable de Faraday-sur-Mer, façonné par nos mains, à l'heure où certains songent à outrepasser les frontières du monde que nous avons soigneusement construit, il est instructif de se rappeler ce qui est arrivé, le jour où le continent est parvenu jusqu'à nous, et comment cela a mis en péril le fragile équilibre que nous avons bâti. Rappelez-vous, le jour où la Calanchée en fait lieu même, nous a révélé l'existence de la Grande Guerre qui a secoué la planète. Rappelez-vous seulement ces mots. Mobilisation, tranchée, baïonnette, explosion. Les destins comme celui de l'exploratrice brisée par la violence, désormais fracassée et perdue. Ce n'est pas pour rien que la Calanchée a été cette femme égarée, adepte de nos plus subtils poisons, partie avant l'heure. Reporter au front, elle avait vu des choses si terribles qu'elle ne trouvait plus leur place que dans ses pires cauchemars. Le jour, elle n'arrivait plus à se les remémorer, mais la nuit, elle revenait la happer sous des formes monstrueuses, irréelles, et qui pourtant la réveillaient, lui tordaient le ventre, recréaient en elle la pulsation de la douleur. Et qu'ont fait les avions durant cette période? Ils ont étendu l'empire de la guerre jusque dans les hauteurs. Voilà ce que Suzanne Fleming nous a raconté. Et rappelez-vous surtout comme nous avons été bouleversés de cette histoire. Comment, alimentés par nos émotions, l'eau de ce même bassin s'est agitée pendant des heures. Bouillonnante, brillant d'une blancheur immaculée, projetant des gouttelettes scintillantes et des éclairs qui allaient jusqu'à nous aveugler. Rappelez-vous comme nous nous sommes sentis trompés, ayant découvert que les nouvelles du continent ne nous apporteraient pas qu'inspiration et nouvelles techniques, mais terreur et désolation. Pendant des semaines par la suite, notre stupeur, notre angoisse et notre déception, captées par les algues, ont fait fonctionner l'île à une vitesse fulgurante. Les moulins, les ventilateurs tournoyaient, les lampes illuminaient, les ballons s'élevaient en ruminant notre tristesse. Les machines à pluie inondèrent l'école à plusieurs reprises. Une dépression collective profonde avait cassé notre rythme, déréglait nos inventions, générant encore plus d'irritation et de colère. Le continent n'est pas que voitures rutilantes, jazz grésillant et radio chantante, mes amis. Il est aussi cette violence brute que nos contemporains, sans cette relation précieuse avec le végétal, déverse les uns sur les autres. Ainsi, à ceux qui pensent prendre la voie des airs ce soir, je rappelle que la Calanchée n'était point prophète, mais plutôt messagère obscure d'un monde tordu que nous avons tous quitté, nous ou nos ancêtres de l'Hyperion II, pour en créer un meilleur ici, avec les plantes.
Bon, pour que je comprenne bien et que nos auditeurs comprennent, dites-moi, Christiane, qu'est-ce qui est en jeu dans le discours de cette Alcidie Carpentière?
En fait, le récit d'Antilou, celui que j'ai édité, nous apprend qu'à la fin des années 1930, la carcasse de l'avion avec lequel Suzy Fleming, l'exploratrice, était arrivée sur l'île, y a été retrouvée sous l'eau. Suzy Fleming, donc, on se resitue, était déjà morte à ce moment-là. Mais la découverte de son avion, qui était resté toutes ces années-là sous l'eau, a excité l'imagination scientifique des insulaires. Il y en a plusieurs qui ont décidé de recréer un appareil volant. Dans le fond, c'était une société où les gens étaient très axés sur la création, sur l'innovation, et donc ils ont été complètement stimulés par cette découverte. Et ça, ce projet-là a créé des dissensions dans l'île inventée, des dissensions qui sont racontées par Ensilou, parce que plusieurs craignaient la reprise de contact. Donc, les botanistes qui étaient totalement opposés au projet ont voulu l'empêcher à tout prix, là.
Donc, les récits de guerre racontés par Suzy Fleming sont devenus le principal moyen des botanistes pour alimenter la peur de l'ailleurs, c'est bien ça?
Oui, certainement, mais il y a aussi différents mythes dans l'île inventée qui ont joué ce rôle durant les racontés, donc ces soirées de contes autour des bassins algothermiques. Parfois, peut-être à leur insu, les conteurs colportaient cette idée qu'on peut bien désirer tout ce qui vient d'ailleurs, mais rien de bon n'en ressort. C'est quelque chose qui était fréquent là, dans les contes, dans les histoires qu'on se racontait. Mm-hmm.
Quoique ces contes pouvaient tout autant être critiques du comportement des gens de l'île. Parfois même, ces deux postures se retrouvaient dans une même histoire. D'ailleurs, ça me fait penser, tu sais, à la Flavie, à la bulle. Attendez, je reviens, je vais chercher quelque chose.
Monsieur Grenier, qu'est-ce que vous faites là? Mais sortez de là. Martin, laisse-toi pas faire. Ah, mais c'est quoi ça? C'est déjà quelque chose d'envahir le studio. S'il faut en plus.
Voilà, je l'ai. Attendez. Voilà, vous allez voir, donc c'est un conte qui est fort instructif à ce propos. Je crois que vous allez apprécier ça.
Laissez votre tour de parole. Mes amis, ce soir, je vais vous raconter une histoire que je porte depuis 30 ans. Je vais vous raconter l'histoire d'Arbor Mater, mais avant, il faut que je vous raconte celle d'un jeune homme, l'un des tout premiers arrivants sur l'île. Ken Yamaken, elle ou il était une fois, sous le regard de Kuri et Kuriemde. Rapprochez-vous, l'histoire va commencer. J'espère que les algues ne vont pas tarder à frétiller et que ma voix ne va pas trop trembler. Khalil avait tout juste 20 ans quand il est monté à bord de l'Hyperion 2. C'était un jeune homme passionné par la culture du lin. Un inventeur un peu fou qui passait son temps à imaginer de nouvelles façons de travailler les fibres. Il avait grandi près de Damas, Al-Balad al-Sham, comme il disait. Sa famille exploitait cette plante depuis des générations. Mais à la mort de ses parents, c'est son grand frère qui a pris les rênes de l'exploitation. Et à partir de ce jour-là, tout a changé. Khalil a été obligé de quitter son village. Il s'est réfugié dans une cabane de fortune sur l'estuaire du fleuve Adonis. Pour seul bagage, quelques graines, des outils et une petite flûte en bois qu'il tenait de sa mère. C'est dans cette cabane que Charlotte l'a trouvé et qu'elle lui a proposé de rejoindre l'équipage. Dès qu'il est arrivé sur l'île, en 1865, Khalil s'est mis au travail. Très vite, grâce à l'énergie du groupe, la terre a été prête pour les semis et quelques mois plus tard, les premières fibres étaient tissées. Khalil apportait sans cesse des améliorations à ses créations. Il s'inspirait de toutes les plantes qu'il découvrait. Certains jours, on pouvait le voir les yeux mi-clos, comme dans une sorte de transe, son esprit vagabonder et ses mains danser sur le métier à tisser. Au milieu de l'effervescence générale, des couples se sont formés et les premiers bébés de l'île sont arrivés. chaque naissance était fêtée lors d'une grande nuit sur la plage de Port Barret. Tout le monde se retrouvait là. Khalil prenait la flûte de sa mère, jouait face aux vagues, pendant que d'autres improvisaient des danses jusqu'au petit matin. Les trois premières années sont passées à une allure folle et Khalil était heureux. Pas une seule fois, il n'avait regretté d'avoir suivi Charlotte et d'avoir quitté son pays. Mais malgré tout, plus le temps passait et plus il se sentait seul. Bill Lail, la nuit, près des algothermes, il regardait les amoureux qui s'enlaçaient. Lui, il n'avait personne pour caresser sa peau, goûter son corps, partager ses rêves. Sans personne à aimer sur cette île, il suffoquait. Alors il a commencé à passer de moins en moins de temps au village. Il partait seul, de longues heures à la découverte de l'île, sa faux à la main, il se frayait un chemin à travers les ronces. Et c'est comme ça qu'un jour, il a découvert une petite crique à la lisière de la forêt toxique. Au loin, sur un rocher, juste sur le bord de l'eau, il a vu une silhouette. Une femme complètement nue qui peignait ses longs cheveux face à la mer. Il n'a pas bougé. Il est resté là, à la regarder de loin. Et juste avant le coucher du soleil, la femme s'est levée et elle est entrée dans une grotte. La grotte avait deux entrées et au milieu, un bassin naturel qui rejoignait l'océan. Khalil a vu la femme ramasser une peau faite d'écailles. Elle a glissé ses jambes à l'intérieur et elle a plongé dans l'eau. Il n'en a pas dormi de la nuit. Le lendemain, il est revenu dans la même crique, mais personne, la plage était déserte. Il s'est assis sur le rocher et face à la mer, il s'est mis à jouer. Tout à coup, derrière lui, il a senti une présence. Du coin de l'œil, il l'a vue. Elle était là, à quelques mètres, ses longs cheveux recouvraient une partie de son corps. Elle se tenait à distance. Alors il a continué à jouer jusqu'au coucher du soleil, jusqu'au moment où elle a disparu dans la grotte. Le lendemain et les jours suivants, elle était encore là, un peu plus proche chaque fois. Petit à petit, ils ont trouvé des moyens de communiquer. Alors au début, les premiers jours, ils dessinaient sur le sable. Mais très vite, Khalil a eu une idée. Il est allé au village et il a ramené tout un stock de Philicophyte auditum. Et ça a marché. Le traducteur universel inventé par Alcide et les jumeaux fonctionnait à merveille. De jour en jour, de Philicophyte en Philicophyte, l'amour s'est emparé d'eux sans qu'ils s'en rendent compte. Ils passaient toute leur journée ensemble. Et la nuit, Bill Lail, chacun dans son monde, ils attendaient le lendemain. Bess, Fillon, un jour, pour la première fois, elle n'est pas venue. Khalil, sur le bord de l'eau, était désespéré. Si elle ne revenait pas, que deviendrait-il ? Il est rentré chez lui au milieu de la nuit. Mais il n'a pas fermé l'œil. Le lendemain, dans la grotte, il attend. Et quand il la voit enfin apparaître dans le bassin, il la couvre de baisers, mais surtout de questions. Elle l'a tout de suite rassurée. C'était ma mère, elle était juste un peu malade, mais ne t'inquiète pas, elle va mieux maintenant. Ce soir-là, quand ils se sont quittés, quand il est rentré chez lui, il n'avait qu'une. Si elle ne revenait plus jamais, si un vrai malheur arrivait. Alors, toute la nuit, il a échafaudé un plan. Et le lendemain, il a mis son plan à exécution. Il est passé par l'autre entrée de la grotte. Et sans faire de bruit, il a ramassé la peau d'écaille. Il l'a cachée dans le creux d'un arbre, l'a recouverte de gros morceaux de mousse, et il l'a rejoint sur la plage comme si de rien n'était. Quand ils se sont quittés ce soir-là, quand elle est retournée dans la grotte, il a attendu qu'elle pousse un cri avant de revenir en courant auprès d'elle. Pendant de longues heures, ils ont cherché partout. Pendant 7 jours, ils ont cherché en... Fallait se rendre à l'évidence, sa peau avait complètement disparu. Et un autre malheur avait surgi. Le temps de la brise noire était arrivé. Et il fallait fuir comme la plupart des habitants. Alors tous les deux, ils ont rejoint le refuge des palais. Les habitants ont vu cette femme que personne ne connaissait. Ils ont posé des questions. Khalil a inventé une histoire. Il leur a raconté qu'il l'avait trouvée inconsciente sur la plage, victime d'un naufrage sans mémoire de sa vie d'avant. Elle avait l'air tellement perdue que personne n'a cherché à en savoir plus. Jour après jour, accrochée entre ciel et mer pendant le grand déracinement, elle a accepté d'oublier sa vie d'avant. Et quand enfin ils ont pu revenir sur l'île, elle était enceinte d'une petite fille. Et cette petite fille, c'était moi.
Maman.
C'est très vite adapté. La plupart des habitants l'appréciaient, mais son réel coup de cœur, c'était Alcide. Lui, l'homme végétal, elle, la fille de la mer. Pendant que mon père s'occupait des cultures, elle investissait tout son temps dans le laboratoire d'Alcide. Il lui proposait sans cesse de nouvelles plantes hybrides croisées avec des microalgues qu'elle s'amusait à tisser avec les fibres de lin. C'est elle qui a créé le Motus Textus que nous portons tous aujourd'hui. Je me souviens que jusqu'à l'âge de mes 12 ans, le Motus Textus que ma mère portait se teintait exclusivement de jaune. Un jour, alors que je me promenais avec elle, j'ai été attirée par un morosphinx qui boulottait de fleur en fleur. Je l'ai suivi jusqu'à un amas de ronces, près d'un grand arbre. Mais à côté de moi, ma mère s'était figée et son motus textus virait au bleu foncé. J'ai suivi son regard et j'ai vu derrière les ronces et les lianes emmêlées une tache argentée qui brillait au soleil, une toute petite tache pointée sous la mousse qui recouvrait le tronc. Sans un mot, ma mère a passé son bras entre les ronces et elle a arraché la mousse. Bloc après bloc, jusqu'à en extraire une drôle de matière desséchée. C'était la première fois que je voyais ma mère pleurer. Je l'ai suivie sans rien dire jusqu'à la grotte et je l'ai regardée plonger cette matière froissée dans le bassin. Plus la peau s'assouplissait, plus le visage de ma mère rayonnait. Son motus textus était maintenant si vif qu'il semblait éclairer les moindres recoins de la grotte. C'est ce jour-là, sa peau de poisson entre les mains, qu'elle m'a tout raconté. Puis elle a glissé ses jambes à l'intérieur et elle a plongé. Moi, sur le bord du bassin, j'ai attendu de longues minutes sans bouger. Quand je l'ai vue réapparaître, elle a glissé une petite graine visqueuse dans ma main et quelques mots à mon oreille avant de plonger pour ne plus jamais revenir. Mon père a pleuré longtemps, assis sur son rocher sur le bord de l'eau. Plus rien ne comptait pour lui et il jouait de la flûte nuit et jour en espérant son retour. Il ne s'est jamais remis de son départ. Le jour de sa mort, il m'a fait promettre de ne pas l'enterrer selon nos rites, mais de plonger son corps
au fond de l'eau.
J'ai confié mon père à l'océan et j'ai réalisé le souhait de ma mère. J'ai planté sa graine à la lisière de la forêt toxique, et je suis venue m'installer ici, à Faraday-sur-Mer. Bess, Nar Soboh. Un matin de grand vent, j'ai été réveillée par une musique étrange, comme une voix lointaine qui m'appelait. Je me suis levée et j'ai traversé l'île. La musique était de plus en plus forte. Et à la lisière de la forêt toxique, là où j'avais planté quelques années plus tôt la graine que ma mère m'avait confiée, avait poussé un arbre gigantesque. Celui que l'on appelle aujourd'hui Arbor Mater. Ses branches étroitement enlacées semblaient m'inviter à grimper, et tout autour, le souffle de ma mère. Ken Yamaken, elle où il était ou n'était pas. Je confie mon histoire à l'île, sous le regard de Kouri et Kouriembe.
Donc, après les algues magiques, c'est des femmes poissons. C'est carrément des sirènes. Non, mais sérieusement, là, vous demandez à ce qu'on vous croit. Mais vos sources, chers amis, sont particulièrement fantasques. Vous en conviendrez.
Ben, écoute, Simon-le, c'est sûr, je me mets à ta place. C'est difficile de départager en plus le vrai du faux, les embellissements de la fiction, des réalités surprenantes dans une société qui est aussi éprise de l'ordre du compte.
Nous avons découvert tellement d'artefacts improbables qu'à partir de là, nous devons rester flexibles sur le spectre du concevable, sans évidemment entacher notre rigueur. En d'autres mots, nous appliquons toujours la méthode scientifique, mais dans l'incapacité de reproduire certains des phénomènes ou certaines des inventions sur lesquelles nous avons mis la main, notre hypothèse de travail ne peut être ni validée ni invalidée.
Oui, ça m'apparaît bien pratique. Mais quand même, il y a des limites. Et surtout, écoutez, dans le champ des sciences, il y a des balises à respecter.
Écoutez, nous ne pouvons être freinés par les esprits obtus.
Oh, vous parlez de moi, là?
Nous reconnaissons, par exemple, l'appartenance de Kouri et Kouriembe, les tortues mondes qu'évoque la narratrice, au mythe d'Asie et d'Afrique. Mais nous ne pouvons exclure l'existence passée ou présente de femmes poissons.
C'est indéniable.
Non, mais quand même, Christiane, vous ne pouvez pas cautionner...
Non, mais surtout après tout ce qu'on a découvert quand même sur l'hybridation plante-humain.
Parfaitement.
Eh oui.
Parfaitement.
Simon, j'aimerais vraiment dire à vos auditeurs là, que tout ça est un coup monté, mais les preuves, elles sont là, puis défient vraiment beaucoup de nos certitudes.
Et plus nous poussons notre analyse, plus notre hypothèse se confirme. Ce n'est pas les rebuffats des collègues des sacro-saintes revues archéologiques Science ou The Lancet qui nous empêcheront d'aller au bout de notre recherche. C'est sûr.
OK, tout le monde, on se revoit au prochain épisode.
Hein? Quoi? Ben, c'est déjà fini? Oui. Ben, non, mais j'avais plein de trucs à dire, là.
Note.
Ben, je suis bienvenu pour rien, quoi. Voilà. Ah, mais il faut rester au lit.
Une production de Rhizome et de Arcam-sur-Loire en collaboration avec La Quadrature.
Vous venez d'écouter le 5e épisode de la série Cosmogonie de l'île inventée. Une production Rhizome, Arcam-sur-Loire en collaboration avec La Quadrature. Cette émission est à retrouver en podcast sur jetfm.fr. Bonne semaine sur JetFM.